CFM, le mag.
Bonjour à tous, dans le mag aujourd'hui, Chat-Laure, Emeline, comportementaliste félin, s'intéresse à l'abandon cette semaine. Oui, c'est pas game, mais c'est courant, malheureusement. Avant ça, je serai au téléphone avec le directeur d'EDF Hydro, Lotte Truyère, pour parler de l'activité et de l'actualité des barrages aveyronnais. Mais d'abord, AC/DC, Shot in the Dark sur CFM Rhodes.
CFM
à Olympe 107.9.
L'esprit rock.
Bonjour Eric Ladegaillery.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'EDF Hydro pour la vallée du Lot et de la Truyère, c'est ça, en Aveyron?
Tout à fait.
Ça représente, alors je ne sais pas en quoi vous comptez, vous, en barrage, en kilowattheure, ça représente quoi?
Écoutez, moi je vais vous parler plutôt de notre parc hydroélectrique sur l'ensemble du département de l'Aveyron, puisqu'on a deux gros complexes hydroélectriques, l'un dont je m'occupe sur le nord Aveyron, sur la vallée du Lot et de la Truyère, mais également un dans le sud Aveyron, sur la vallée du Tarn. Et si on regarde l'ensemble de nos aménagements, c'est 21 barrages et 15 centrales, environ 2300 mégawatts, c'est-à-dire de réacteurs nucléaires, et on alimente avec ce parc hydroélectrique environ 5 fois le département de l'Aveyron en termes de population.
L'Aveyron exporte d'une certaine façon son hydroélectricité ailleurs en France.
Oui, tout à fait, c'est une façon de voir les choses. Hein. L'Aveyron, c'est le troisième département hydroélectrique de France, et effectivement, on peut dire que l'électricité made in Aveyron s'exporte au-delà des frontières du département.
Très bien, alors on est ensemble à l'occasion d'un bilan de l'année écoulée et puis de l'horizon 2021, l'horizon proche. Alors déjà, première question, l'année 2020 pour vous, elle a été comment?
Ben, je pense que comme pour tous les Français et toutes les entreprises, elle a été très particulière du fait du contexte sanitaire. Mais à part ça, et si vous voulez, si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé en 2020, on peut être content, on peut être même fier de la façon dont l'hydroélectricité a contribué à alimenter les Français en Aveyron. Le challenge pour nous, si vous voulez, en début d'année, ça a été de faire face au confinement, comme tout le monde, tout en maintenant nos activités, puisque l'électricité, c'est un produit vital. Et par ailleurs, il faut qu'on la produise en toute sécurité. Donc on a dû adapter nos façons de travailler et puis nos activités. Et puis rapidement, on a eu un autre enjeu finalement, c'est d'arriver à réaliser quand même un certain nombre de chantiers pour que notre parc de production soit disponible pour la fin d'année, puisqu'on anticipait des besoins particuliers pour la saison hivernale. Et comme on le sait, ces dernières semaines, avec les épisodes de froid, nos prévisions se sont avérées exactes.
Vous aviez prévu qu'il allait faire super froid au mois de janvier ?
Non, je dirais pas ça. Mais ce que je dirais, c'est que c'était une des options qu'on avait prévues. Mmh. Voilà, c'était une des options possibles. Mais par ailleurs, on savait qu'on aurait, du fait de la crise Covid, des tensions possibles sur le réseau électrique. Et donc, il fallait qu'on soit disponible au maximum et que nos machines répondent présents. C'est pour ça qu'on s'est adapté, qu'on a mené un certain nombre de chantiers emblématiques là sur nos machines pendant l'année. Pour vous donner peut-être deux chiffres qui le traduisent, c'est que début janvier de cette année, on avait 85% de nos réserves d'eau habituelles, alors qu'à la même période, en moyenne, on est plutôt à 60%, vous voyez. Donc on avait réussi à économiser l'eau pour l'utiliser au maximum. Et puis d'autre part, on avait une disponibilité maximale de notre parc, la plus importante depuis 10 ans. Pour vous le faire toucher du doigt, par exemple, il y a ça 15 jours, sur une semaine, on a produit 165 gigawattheures. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est pour vous dire, c'est à peu près 10 fois la consommation sur la même période du département de l'Aveyron.
D'accord. C'est quoi les travaux dont vous parlez, l'adaptation dont vous parlez, ça a consisté en quoi? Parce qu'un barrage, c'est un barrage, quoi.
Ah ben, un barrage, c'est un barrage. Une machine, c'est une machine. Mais comme pour votre voiture ou comme pour votre maison, vous avez des travaux d'entretien à faire réguliers pour que les machines et puis les barrages restent en bon état. Et donc, je vais vous citer juste un exemple. Donc, en 2020, on a rénové en totalité l'un des groupes de la centrale de Montézic. Au cœur de l'Aveyron, enfin au cœur du Nord Aveyron. La centrale de Montézic, c'est la deuxième centrale la plus puissante de France. En plus, c'est ce qu'on appelle une station de transfert d'énergie par pompage, une STEP, c'est-à-dire un outil très particulier qui nous permet à la fois de turbiner l'eau, donc de produire de l'électricité, mais également de la pomper, c'est-à-dire de faire remonter l'eau pour reconstituer sa réserve. Et donc, c'est un outil assez formidable puisqu'on pompe pendant qu'il y a trop d'énergie, et puis quand on a besoin d'énergie, on peut turbiner. Donc vous voyez, ça marche dans les deux sens, donc c'est un outil assez exceptionnel. Donc il y a quatre groupes de production, quatre machines dans cette centrale, qui fait à peu près un réacteur nucléaire en totalité, 900 mégawatts. Et l'un des groupes de cette centrale a été complètement rénové, donc on a tout démonté, la turbine, l'alternateur, le transformateur, et on a remplacé, rénové l'ensemble de ces pièces. Donc c'est un chantier qui, au total, si on regarde les coûts complets, c'est à peu près 20 millions d'euros, voilà, qui ont fait travailler beaucoup de prestataires, les agents EDF, donc un chantier d'envergure qu'on a su mener pendant la période Covid.
Un chantier comme celui que vous venez de me décrire, c'est, on fait ça tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 30 ans?
Sur Montézic, en fait, c'est la première fois qu'on rénovait les machines depuis la mise en service de la centrale en 82 exactement. Mais par contre, comme on a beaucoup de machines, comme je vous l'ai dit, en fait, régulièrement, quasiment tous les ans, nous avons des chantiers d'envergure sur un barrage, une machine. Et donc, ça continuera en 2021, par exemple, avec typiquement le même type d'opération, c'est-à-dire le démontage complet et la rénovation complète d'une des machines de l'usine d'Alrance, donc là, qui est sur le bassin du Tarn.
En ce qui concerne la production d'hydroélectricité sur le département de l'Aveyron pour l'année 2020, en regardant un petit peu, en préparant notre entretien, j'ai vu en 2018, vous félicitiez d'avoir battu des records de production. Là, en 2020, ça a donné quoi, cette production totale par rapport aux années précédentes?
Alors, 2018 avait été une année très particulière, effectivement, parce qu'il y avait eu, notamment en début d'année, des épisodes de crues et beaucoup d'apports d'eau. 2020, ça a été une année normale, je veux dire une année tout à fait moyenne, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a produit ce à quoi on s'attend sur une année standard. Ce qui est plutôt exceptionnel, si vous voulez, c'est comme je vous le dis, c'est les réserves d'eau qu'on a pu avoir et notre capacité avoir été très disponible et donc pouvoir turbiner quand on en avait besoin en fin d'année. C'est ça la particularité.
Alors un petit mot, tiens, puisque vous parlez de réserve d'eau, moi je me suis intéressé au barrage de Pont-de-Salard en début d'année, enfin il y a quelques semaines, là, à l'occasion des inondations, enfin des fortes pluies qu'on a eues pendant plusieurs semaines, avec cette image très spectaculaire, bon pas dangereuse, hein, du barrage qui débordait. Donc là vous avez été servi niveau flotte.
Alors oui, alors donc je rentrerai pas dans le détail, si vous voulez, de l'exploitation du barrage de Pont-de-Salard en crue, puisqu'en fait il est pas sous ma responsabilité, mais effectivement c'est un événement assez exceptionnel qu'on a vécu et sur lesquels nos collègues qui travaillent sur la vallée du Tarn ont été pleinement mobilisés. Et je sais qu'il y a d'ailleurs des partages qui sont en cours pour effectivement faire de l'explication et de la pédagogie sur la gestion des crues, sur cet aménagement-là. Mais de manière plus générale, effectivement, le mois de février a été très très fortement arrosé, enfin d'ailleurs dès fin janvier, et on a eu un épisode de crue, si vous voulez, de manière un peu généralisée, qui a touché le Lot et qui nous a permis effectivement de bien remplir nos retenues, hein, ce qui font qu'aujourd'hui effectivement on a des belles réserves d'eau. Et puis d'autre part, cette eau on l'a turbinée en partie, donc on a eu effectivement une belle production au mois de janvier et de février. Ça c'est pour le volet, si vous voulez, comme vous le disiez, apport d'eau. Par contre, pour nous, la priorité, c'est pas celle-ci. Quand on a ce type d'épisode, c'est vraiment la gestion de crue et donc la sûreté, puisqu'on a des règles très précises pour exploiter nos ouvrages quand nous avons des crues. Et donc, le point important, si vous voulez, c'est que l'exploitation de nos ouvrages pendant les crues, c'est très bien passé, hein. Les consignes qui nous sont imposées en administration ont été respectées. Et cet épisode, c'est globalement bien déroulé, même s'il est évidemment très marquant pour la population et que il peut avoir des conséquences. En tout cas, du point de vue des ouvrages EDF, la gestion en crue, c'est globalement bien déroulée.
Alors justement, parce que l'image qui débordait du barrage de pont de Salard, bon là, c'était une situation exceptionnelle. Mais on parlait aussi effectivement d'un barrage, à un moment donné, bah, il a ses limites, même s'il est haut. Enfin, bon, donc, il faut ouvrir et laisser filer l'eau finalement.
C'est exactement ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc nous on a des principes à respecter lors d'un épisode de crue, et le premier principe pour nous qui est fondamental et qu'on respecte en toutes circonstances, c'est que nos barrages ne doivent pas aggraver l'impact de la crue. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau qui aurait été là si le barrage n'avait pas été là, eh ben il ne doit pas y en avoir plus. Hein. Le barrage ne doit pas aggraver l'impact de la crue. Alors ce qu'il faut comprendre, et c'est très simple, hein, je pense que la meilleure image c'est celle de la baignoire. Hein. Vous remplissez votre baignoire, tant qu'elle n'est pas pleine, et ben elle va se remplir. Puis au bout d'un moment, quand elle est remplie, ben, il va bien falloir qu'elle déborde. C'est exactement ce qui se passe, si vous voulez, avec un barrage. Voilà, il a une capacité. Quand il est plein, effectivement, l'eau va devoir passer. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si le barrage n'avait pas été là, l'eau serait passée également. Donc notre barrage n'aggrave pas la crue. Et c'est pour ça qu'à Pont-de-Salard, effectivement, typiquement, le barrage s'est rempli. Eh ben, l'eau qui est rentrée ne pouvait pas être stockée complètement. Le barrage a été complètement rempli, et donc forcément, il a déversé, ce qui est tout à fait normal. Et là, l'épisode de crue, si vous voulez, n'a pas été aggravé. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre.
Normal, mais exceptionnel quand même. C'est pas tous les ans.
C'est pas tous les ans, si on regarde Pont-de-Salard. Mais par contre, si vous regardez sur plus d'aménagements, on a des crues tous les ans. C'est la vie normale de nos aménagements parce qu'il y a des crues sur les rivières. Par contre, effectivement, ce qui est un peu particulier sur typiquement et c'est le cas sur Pont-de-Salard, c'est que certaines crues qui auraient eu lieu s'il n'y avait pas eu le barrage ne se voient plus parce que le barrage est capable de les stocker entièrement. Voilà, donc on ne les voit plus. Et effectivement là, ça n'a pas été le cas. La crue était suffisamment importante pour que le barrage déborde. Mais pour autant, cet épisode quelque part, il est normal. C'est la vie normale de la rivière. C'est parce qu'il pleut, c'est parce qu'il peut y avoir de la fonte. C'est la vie normale des cours d'eau, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre.
Éric Ladegaillerie, je rappelle que vous êtes directeur d'EDF Hydro pour la vallée du Lot et de la Trière en Aveyron. Vous faites partie des gens qui, quand il pleut, vous êtes content. Mais il ne faut pas qu'il pleuve de trop quand même.
Tout à fait. Oui, il faut qu'il pleuve juste pour que nos retenues soient pleines. C'est encore mieux si elles ne débordent pas. Par contre, si elles débordent, eh ben, on est préparé pour y faire face, et ça fait partie de notre métier d'exploitant, et c'est clairement une de nos priorités que de savoir réagir correctement dans ces circonstances. Mais effectivement, la crue a des conséquences qui peuvent être effectivement négatives pour les populations. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos retenues sont pleines et qu'on en bénéficiera, notamment cet été et cet hiver, cet été pour le tourisme, pour l'alimentation en eau, etc., et cet hiver pour la production d'hydroélectricité. Donc, il y a bien deux facettes aux crues. Il faut qu'il pleuve. C'est bien, c'est mieux quand il pleut pas trop, voilà.
D'accord.
Pour juste équilibre.
Donc là, en ce moment, il fait beau, mais vous faites pas la gueule parce que vous aviez fait des réserves d'eau quand il a bien plu.
Exactement. Et il fait beau, mais à certains moments, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il peut faire froid. Mmh. Et à ce moment-là, ben, c'est là où l'hydroélectricité a tout son intérêt. C'est-à-dire qu'on a de l'eau qui est disponible, qui est stockée, parce que l'électricité ne se stocke pas, mais l'eau se stocke. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on peut produire de l'électricité quand on veut, puisqu'en plus, comme on le dit, notre hydroélectricité en Aveyron est flexible. C'est-à-dire qu'on produit quand on veut, de manière réactive. Hein. En quelques minutes, on peut démarrer ou arrêter des machines. Et donc s'adapter aux besoins de la population en termes de consommation d'électricité. Donc c'est bien à ce moment-là que l'hydroélectricité a toute sa valeur.
J'ai compris. Autour de 2021, c'est quoi un petit peu le programme en Aveyron, et des barrages? Vous m'avez parlé d'investissement, de travaux. Bon, on est dans du classique, genre du régulier.
Bah, écoutez, oui, on va avoir un certain nombre d'opérations comme chaque année. Donc je vous ai cité tout à l'heure l'opération que nous avons de rénovation des machines d'Alance. Avec des montants assez conséquents, 1,2 million d'euros et puis une rénovation complète de la machine. Nous allons aussi avoir des opérations sur le Nord Aveyron avec ce qu'on appelle un examen technique complet du barrage de Saran. Alors ça s'apparente, si vous voulez, à ce qu'on appelle une visite décennale, c'est-à-dire une révision de la machine. C'est comme quand vous allez vous amener votre machine, votre voiture chez le garagiste pour faire une révision. Et bien là, tous les 10 ans, le barrage est révisé pour vérifier que tout va bien. Mmh. Et je vous rassure, tout ira bien, puisque c'est un barrage qui est en très bon état et surveillé de manière très précise. Mais ça nous permettra d'en faire un diagnostic précis. Et puis, on aura une rénovation aussi, par exemple, d'une des machines de Montézic, hein, sur la partie de la turbine, avec un démontage qui va durer encore plusieurs mois, donc une opération conséquente. Donc ça, c'est quelques opérations emblématiques, mais sur la plupart de nos machines, nous aurons des opérations de maintenance courante et des activités qui vont s'échelonner toute l'année.
Vous nous avez dit, si j'ai bonne mémoire, 21 barrages en Aveyron et 15 centrales, hein, au total. Hein. Ça représente combien de personnel à peu près, pour se faire une idée de personnes qui travaillent?
Alors ça fait à peu près entre 120 et 130 personnes, hein, 120-130 agents EDF, hein, sur le département, sachant que vous avez à la fois des personnes qui sont ce qu'on appelle des exploitants, c'est-à-dire qui sont sur les centrales pour les faire tourner au quotidien. Puis vous avez également des agents de maintenance qui sont là pour entretenir les machines et faire les activités de maintenance un peu plus compliquées pour maintenir le parc de production en état.
Tiens, petite question, monsieur de Galerie. Bon, les barrages de l'Aveyron, on connaît. Alors, vous nous avez parlé de travaux, de maintenance, etc. Mais le grand public, il connaît notamment à l'occasion de visites qui sont parfois organisées pour visiter les ouvrages. Là, avec la situation sanitaire, c'est rideau. On n'en parle pas, il n'y en a plus.
Ah non, non. On a dû, comme pour ces autres activités, nous adapter. Donc, si on regarde en 2020 ce qui s'est passé, tout simplement, on a effectivement la volonté de faire connaître notre patrimoine hydroélectrique, qui est assez exceptionnel et parfois méconnu au grand public et puis aux touristes qui viennent sur nos territoires, qui d'ailleurs ont été très nombreux en 2020 du fait de la crise du Covid. Hein. Il y a eu plus de fréquentation sur nos départements ruraux que d'habitude. On a simplement dû adapter nos visites en privilégiant plutôt des visites extérieures et avec un certain nombre de règles sanitaires qui nous ont permis de les maintenir. Et donc on a une influence qui est tout à fait comparable à celle des années passées, voire même supérieure.
D'accord.
Donc c'est plutôt une belle réussite.
Ouais.
Et en 2021, on prévoit la même chose. Donc on a des manifestations qui sont prévues. Donc on verra si effectivement les contraintes sanitaires nous obligent à quelque part en adapter les modalités, mais on compte bien les tenir autant que possible. Et moi je voudrais en citer l'une, c'est qu'on va célébrer sur le Nord Aveyron. Alors je vais dire les 10 plus 1 an de la route de l'énergie. Pourquoi les 10 plus 1 an? C'est parce qu'on avait prévu de le faire l'année dernière, mais les conditions ne l'ont pas permis. Donc on va faire les 10 plus 1 an. Et la route de l'énergie, c'est tout simplement, si vous voulez, un dispositif partenarial entre EDF et les collectivités qui vise à mieux faire connaître notre patrimoine avec des ouvertures de barrages, des manifestations culturelles, etc., qui essaient de mettre en lumière à la fois les barrages, mais aussi le patrimoine assez exceptionnel qu'on a dans notre beau département.
Et ça serait vers quand, ça, a priori?
Alors, ça sera tout l'été, hein, donc le programme sera confirmé, mais ça va s'étaler de fin juin à début septembre.
C'est bien noté. Dernière question, Eric, là, de Gaillerie, puisque vous avez prévu l'hiver qu'on a eu, pluvieux et surtout très froid. Bon, là, l'été, il s'annonce comment, là, vos infos?
C'est très difficile de se prononcer, hein, donc on fait des hypothèses. si vous voulez, aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude particulière sur cet été, tout simplement parce que nos retenues sont très pleines.
D'accord. Voilà.
Les années les plus difficiles sont celles où on commence avec des hivers qui ont été en déficit d'eau et les retenues sont basses et où on peut imaginer qu'on pourrait manquer d'eau cet été. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire si aujourd'hui l'été sera sec ou humide. Par contre, dans tous les cas, nous avons les réserves d'eau qui nous permettent d'aborder sereinement les mois qui viennent.
C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Eric Ladegaillerie, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de DF Hydro pour la vallée du Lot et de la Truyère. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À suivre dans le mag sur CFM Rhodes. Après Dennis Lloyd, Chalor, votre rubrique hebdo avec Emeline, comportementaliste Fela.
Since the moment that I wake up, I wanna back and run away. Cause the birds are singing, the birds are ringing, the walls are coming down. Another life, another day. But I don't wanna talk about it. Yeah, we can find another time. Cause the birds are singing, the birds are ringing, walls are coming down. I keep feeling anxious, baby. Days and the nights and I just keep feeling nervous. Help me, why do I feel like I'm fighting on my own? Feeling nervous, help me. Why do I feel like I'm fighting on my own? Fighting on my own. I keep feeling anxious, baby. Days and the nights, and I just keep feeling nervous. Help me. Why do I feel like I'm fighting on my own?
CFM
à la Prime Aube 107.9.
L'esprit rock.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Comme vous, je suis femme des chats. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier en Aveyron. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'abandon. La France est championne dans ce domaine. Commençons par le pire des chiffres de l'abandon. 4 chats sur 10 sont euthanasiés faute de famille. La première raison d'abandon est le déménagement. Le chat se retrouve parfois à la rue. Son espérance de vie passe alors de 15 ans à 4-5 ans. Dans la rue, les maladies prolifèrent et les accidents sont courants. Non stérilisé, le chat va se reproduire, augmentant la population féline et toutes les conséquences négatives que cela a. Le chat a parfois la chance d'arriver en refuge. Mais pour cela, il faut une association qui dispose d'une structure et surtout d'une place pour l'accueillir. Or, c'est bien rare les refuges qui ont des places disponibles. Ensuite, il faut une famille pour l'adopter. C'est parfois un parcours du combattant. La deuxième raison de l'abandon est la maladie du propriétaire et notamment les allergies. Je peux en parler avec expérience car j'ai déclaré une allergie au chat il y a 10 ans alors que j'avais 2 chats. 4 ans de traitement, aucun abandon et il reste peu de traces d'allergie. J'ai maintenant 6 chats. Ces chats abandonnés pour cause de maladie du propriétaire finissent à la rue ou en refuge, tout comme les chats dont les maîtres ont déménagé. La troisième raison d'abandon est la portée non désirée. Je parle de chatons abandonnés à la rue ou en refuge, parfois avec la mère, car le propriétaire n'a pas pris sa responsabilité et fait stériliser son chat. La stérilisation est donc une solution pour limiter les abandons, laisser des places en refuge et réduire les euthanasies. La quatrième raison d'abandon est le problème de comportement. Élimination hors bac, mauvaise cohabitation ou encore agressivité. Plutôt que demander à Dr Google ou Dr Facebook, faites appel à un vétérinaire. S'il n'y a pas de cause médicale, contactez un professionnel du comportement félin. Quelle que soit votre région, je vous invite à consulter le site du collectif CATUS, C-A-T-U-S, qui recense les consultants en comportement félin professionnels. Ceux-ci sauront vous guider pour éviter un abandon à cause d'un comportement gênant. Certains propriétaires choisiront plutôt l'euthanasie que faire appel à un comportementaliste. Bien souvent, on entend dire que les refuges et les fourrières euthanasient. Cette étiquette leur colle à la peau. Or, la vocation d'un refuge est de faire de la protection animale. Ils n'ont pas vocation de faire fourrière, mais le font dans le but de s'assurer de la prise en charge en refuge dans une politique de non-euthanasie. Les fourrières sont parfois des structures indépendantes d'un refuge. C'est surtout dans ces structures que des euthanasies sont réalisées par des vétérinaires par manque de place en refuge. Il faut peut-être arrêter de faire retomber la faute des euthanasies sur les fourrières et vétérinaires, mais plutôt sur des personnes qui abandonnent pour X raisons alors qu'il y a des solutions. C'était mon message du jour. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram, Comportementaliste Félin 12, et sur mon site internet comportementalistefélin.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Chat alors sur CFM Radio.
Merci Emeline, à la semaine prochaine pour le mag, prochaine édition lundi bien sûr. En attendant, bonne fin de journée et bon week-end.